Bonjour, la Terre à boire sur les salons, toujours, maintenant que les événements reprennent, nous baladons nos micros un peu partout, pas vraiment un peu partout, là où il y a des bons vins et des vignerons intéressants à rencontrer. Après le Beaujolais, retour à la capitale pour les 50 ans du cru Cahors. Ça se passe à l'Électrique Paris, un lieu sympathique et branché du 10e arrondissement de Paris. Et je suis évidemment en compagnie de Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Et de Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
On est ravis de parler de Cahors et on est ravis parce qu'on a également trois invités pour en parler. Catherine Maisonneuve, bonjour.
Bonjour.
Enchantée. On va revenir à... Vous avez évidemment apporté une bouteille, donc tu as apporté une bouteille, donc
oui.
on va y revenir. On a également autour de la table Benoît Aymar.
Bonjour à tous.
Bonjour Benoît, du Clos d'Auduit,
c'est ça,
si je prononce bien. Et on a également Armand de Gérard, qui est le directeur de l'interprofession des vins de Cahors. Bonjour Armand.
Bonjour.
Alors Armand, tu vas garder le micro parce que, à titre d'introduction, j'ai envie qu'on parle un petit peu de cet événement. À vrai dire, les 50 ans, c'était en 2021, c'est ça ?
C'est ça. En fait, on avait prévu de le célébrer l'année dernière, mais en raison des contraintes sanitaires liées au Covid, on a été obligé de décaler ça d'un an. Donc en fait, on fête le 51e anniversaire.
J'imagine que c'est un grand plaisir de vous retrouver là, après justement ces 2 ans, quasiment 3 ans, enfin 2 ans et demi sans aucun événement, sans avoir pu justement fêter cet anniversaire.
C'est un grand plaisir, vraiment, parce que ça permet de ressortir, de re-rencontrer des journalistes, des distributeurs, des cavistes, des influenceurs, tout ce qui est un petit peu le cœur de notre métier. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, on a été obligé d'annuler beaucoup d'événements sur lesquels on avait travaillé.
Alors, 50 ans de Cahors, on ne va pas les faire...
Puisque l'AOC a été créé en 1971.
1971,
c'est ouais. Ça.
On ne va pas faire année par année, mais si on doit retracer, c'est quoi 50 ans d'une appellation ? Ça part d'où ? Ça arrive où ? Et après, on parlera un petit peu de l'avenir, mais...
50 ans d'une appellation, c'est long, il y a beaucoup de choses à raconter. Si on doit aller un peu vite...
C'est très introductif, ouais. Là.
Moi, je redémarrais un tout petit peu avant. Simplement, Cahors, c'est un vignoble avec une histoire particulière. C'est un vignoble qui est finalement à la fois très ancien, avec une très longue histoire. Il date de l'époque romaine pour sa création, mais aussi un vignoble très récent puisqu'il a été complètement détruit à la suite du phylloxéra et replanté que très tardivement, replanté une première fois en 1946 après la Deuxième Guerre mondiale et une deuxième fois après les gelées de 1956 qui avaient tué 90% du vignoble. Donc cette histoire depuis 50 ans, c'est une histoire un peu plus contemporaine du vignoble. C'est d'abord l'histoire d'une renaissance, d'un acharnement des vignerons à travailler, à vouloir presque recréer ce vignoble, même s'il en avait subsisté quand même une petite partie. Et puis du coup, c'est beaucoup de travail parce que on repart de pas grand chose. Alors on va dire qu'il y a une épopée collective, l'envie de recréer ce vignoble, de revenir petit à petit vers de la qualité. Et puis aujourd'hui, surtout une ambition pour aller vers des grands vins. Il y en a déjà quelques-uns dans cette appellation, mais même de plus en plus. Donc une ambition, un rêve finalement d'aller au plus haut.
Alors à titre plus personnel, en tout cas pour ce qui est de ta fonction, ça consiste en quoi ? Le travail de l'interprofession en quelques lignes. C'est de la communication, c'est aussi du travail vis-à-vis de l'INAO sur les cahiers des charges.
Alors c'est très vaste. On va dire que l'interprofession des vins de Cahors, c'est l'organisme de promotion de l'appellation Cahors. Donc tous les vignerons qui utilisent la marque Cahors finalement sont affiliés à cette interprofession de façon obligatoire. Et nous, on est l'organisme qui les promeut, qui les fait connaître. Donc on fait principalement du marketing, de la communication, on organise des événements comme aujourd'hui. C'est beaucoup de notre travail, l'événementiel.
C'est vous qui animez aussi le très beau lieu de la maison des vins de Cahors, non ?
Voilà, alors la Villa Cahors Malbec, qui est un espace qui est en plein cœur de la ville de Cahors, sur la place François Mitterrand, qui est un espace de dégustation des vins. C'est la vitrine de l'appellation et on reçoit du public toute l'année pour découvrir ou redécouvrir les vins de Cahors. Et puis c'est un espace qu'on anime aussi avec beaucoup d'événementiels, en y organisant des soirées, des cours de dégustation, des after-work. Beaucoup de choses, des masterclass, etc.
Alors parlons peut-être de ce qui fait Cahors. Je me tourne vers toi, Patrice. Armand, tu as dit la maison de Cahors Malbec. L'association de ces deux noms n'est pas un hasard. Cahors, c'est le Malbec. On ne l'appelle pas toujours comme ça, mais...
Tout à fait. Alors le Malbec, bon, il s'avère que c'est un Bordelais qui a donné le nom par héritage au XVIIIe siècle, un marchand viticole de Bordeaux qui a donné ce nom-là. Et c'était repris, enfin, au départ c'est l'Auxerrois. Alors d'après...
Le cépage emblématique.
Voilà, bon, il y a trois noms en fait. Il y a Co-Auxerrois ou Malbec. Donc Malbec c'est le nom le plus connu. On retrouve le premier vignoble du monde dans le Malbec, c'est l'Argentine, hein, notamment avec la région de Mendoza. Mais sa région originelle, c'est du côté de Cahors, avec l'Auxerrois. Alors il paraîtrait que ça vient du nom d'une... Rien à voir avec la ville d'Auxerre, même si on verra que Cahors a un profil bourguignon sur pas mal d'aspects. Ce serait une cause qui s'appellerait la Haute-Serre, comme une serre d'aigle, hein, qui aurait donné par dérivé le nom d'Auxerrois, mais qui n'a rien à voir avec une filiation bourguignonne. Il y a d'abord un terrain. Qu'est-ce qui fait qu'il est un peu bourguignon? C'est qu'on est sur un socle, on a une superbe carte en face de nous, mais on est un socle kinmeringien comme à Chablis. Et puis on est quasiment, pas tout à fait, on en reparlera, mais quasiment monocépage avec l'Auxerrois slash Co slash Malbec. Et avec un peu comme le Pinot Noir, avec une grande diversité de terroirs qui permet, enfin, quand il est travaillé finement et correctement, à exprimer toute la spécificité des terroirs de Cahors. Mais globalement, on est avec un climat océanique, mais moins pluvieux qu'à Bordeaux. On est influencé aussi par un certain climat montagnard qui vient du plateau du Quercy, qui apporte une certaine fraîcheur. Et puis, on a l'influence du Lot, qui d'abord a influé les terroirs, parce qu'on verra qu'il y a des terrasses d'alluvion au fur et à mesure de son passage, qui ont drainé beaucoup des boulis du massif central. Les différentes méandres du Lot, un petit peu comme en Côte du Rhône Nord, donne beaucoup d'expositions différentes et de terroirs différents. Et voilà, sinon, et après l'AOC, pour être dans l'AOC, on est exclusivement en vin rouge, en tout cas pour l'AOC, avec, on va dire, deux grandes typologies, les 100% Malbec et puis des assemblages à base de Merlot et Tanat. Même si par le passé, il y avait d'autres cépages, on en reparlera, comme le Valdiguier ou le Jurançon qui étaient dans les assemblages, qui donne un peu la spécificité de Cahors.
Armand, le fait de choisir on voit qu'il y a trois noms pour désigner le cépage, le fait de choisir Malbec, c'est volontairement pour donner de la clarté et avoir une visibilité internationale, par exemple, ou même nationale d'ailleurs, parce que Malbec est identifié, Co-Auxerrois peut-être un peu moins, c'est les noms historiques, mais...
Vous l'avez dit, Co, c'est le nom empélographique scientifique du cépage. Auxerrois, c'est le nom local tel qu'on l'appelait à Cahors. Et Malbec, qui est issu d'un patronyme, effectivement, bordelais, c'est le nom international du cépage. Les Argentins ont beaucoup fait pour le faire connaître. Et effectivement, dans les années 2000, quand Cahors a eu velléité à développer ses exportations, elle a fait le choix de miser un peu sur le nom international du cépage, ce qui nous a aidé, effectivement, avoir plus de lisibilité à l'étranger.
Laurent, je me tourne maintenant vers le patron de Bar à Vin. Est-ce qu'on te demande du Cahors? Est-ce que tu fais goûter à l'aveugle du Cahors? Qu'est-ce que tu dirais de la réception de la clientèle, ta clientèle, hein, tu ne vas pas parler la clientèle de tous les Bar à Vin de France.
Je peux parler comme mon modeste nom.
Mais tu as la chance d'avoir les deux, une clientèle française et une clientèle internationale.
C'est évidemment très très rare qu'on me demande spécifiquement du Cahors, et quelles que soient les appellations en général, hein, c'est quand même assez rare. La clientèle étrangère me parle souvent du Malbec quand elle évoque le type de vin qu'elle aime, donc ça, ça ouvre facilement des portes.
C'est un marqueur très...
Ouais, c'est clairement un sacré atout que d'avoir ce cépage qui a marqué les consommateurs du monde entier, hein. C'est un gros gros avantage, donc ça permet de faire goûter des Malbecs, et donc ne travaillant que des vins français, évidemment du Cahors. Après, quand on parle de Cahors aux clients français, souvent on a une image de vin très puissant, qui peuvent faire un peu peur. Hein. Bon, je pense que ça, c'est une évidence. Et justement, ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que toute cette jeune génération qui travaille le Malbec, qui travaille à Cahors, a décidé de donner un nouveau souffle, on va dire, au vin de Cahors, avec des extractions qui sont quand même beaucoup plus légères, beaucoup plus fines, beaucoup plus accessibles immédiatement, si bien qu'aujourd'hui, je peux proposer au verre des vins qui sont assez jeunes et qui sont friands, qui sont gourmands et qui séduisent les clients. Ça, il n'y a pas de souci.
Ouais, ça tombe bien, on va commencer par en goûter un. Je crois qu'on commence avec le tien, Benoît, du domaine d'Auduit. Et c'est une cuvée qui s'appelle La Pompette.
En fait, c'est le nom de la parcelle. C'est vrai que c'était... moi, le domaine, il est jeune et on a la chance par chez nous d'avoir des très bons noms, des très beaux noms de parcelles, et assez original et assez rigolo. Et du coup, j'ai poussé le vice à le mettre sur l'étiquette,
ben La Pompette. Pourquoi pas ? Donc, c'est vraiment un parcellaire.
Ouais, c'est un parcellaire.
Qui n'a rien à voir avec une certaine évolution éthylique.
Non. Aucun rapport.
Ça n'engage personne.
La petite pompe. Est-ce que ce vin correspond un peu à ce qu'évoquait Laurent, c'est-à-dire ce renouveau du Cahors, je ne sais pas si renouveau est le bon terme, mais cette tendance qui va vers le goût aussi des consommateurs, d'aller vers des vins frais, des vins gourmands et...
Je ne sais pas si c'est une tendance, mais c'est un peu le style de vin aussi que moi j'aime boire et que ben, voilà, je suis amateur de bar à vin. Et c'est vrai que généralement, les vins, comment on les boit ou comment je les bois, c'est souvent avec les amis, table basse, fromage, charcuterie. Et c'est, les vins que j'aime, c'est des vins où tu as envie de te faire plaisir en les buvant, mais aussi en étant capable de te resservir. Et c'est vrai qu'on a la chance avec notre cépage de Malbec. Mais de pouvoir le faire. Enfin, il a une telle générosité, ce cépage. Alors, des fois, c'est une diva, il est capricieux, mais quand c'est poussé sur des beaux millésimes comme 2000, on peut se permettre de faire des bombes de fruits tout en ayant un côté gouléant, rond.
Là, on a du fruit, hein.
Mais là, c'est, pour le coup, c'est le Malbec en toute simplicité, parce que c'est une parcellaire. C'est que des Malbecs. Là, on se retrouve en pied de côte.
Alors, on regarde tous la carte. Tu te situes où ?
Versant calcaire, en pied de côte.
Juste sur, avant la descente dans les terrasses alluviales. C'est ça. On postera la photo, évidemment.
Mais là, pour le coup, c'est un cépage, le Malbec. Et pourquoi j'ai décidé de la présenter maintenant, c'est parce que c'est en toute simplicité. C'est juste le raisin qui a cuvé. Alors on fait 2000, c'était vraiment un beau millésime, on a eu des beaux raisins. Et c'est des cuvaisons courtes. Dès lors qu'il y avait le fruit, la couleur, la gourmandise, ça s'est arrêté là. Et après, on est parti sur un élevage cuve béton. C'est sans intrants, c'est pas sulfité, c'est pas filtré, c'est vraiment...
T'as un label bio ou c'est juste...
Là, c'est en conversion. Conversion bio. Alors moi, le domaine, il est jeune, du coup, il y a le temps de la revendication.
Combien d'années, Claude Auduit ?
Claude Auduit, on a commencé officiellement en 2016, la notion de vin de garage, là, on y était en plein. C'était un hectare qu'on vinifiait chez un vigneron, qu'on ramenait dans le garage. Du coup, on a bricolé pendant 3 ans comme ça. Et 2018, début d'une aventure où c'est mon métier de vigneron à 100%. Et voilà, quitter un métier confortable.
Tu fais partie de ces jeunes vignerons qui sont des reconversions, reconvertis.
Alors moi, je suis un bébé de Cahors quand même. mes parents...
Tu n'es pas un banquier parisien qui est venu s'acheter des vignes.
Ça peut aider quand même.
Il y en a. Et il y en a, certains font des bons vins d'ailleurs.
Ah oui, non, je dis pas le contraire.
Donc toi, tu es
ma famille, mes grands-parents étaient de la Capelle, Cabanac. C'est mes racines, c'est ma famille. Donc je suis de là-bas. Mais je suis parti tôt de la maison pour exercer le métier d'œnologue. Alors c'est bien, je travaillais pendant 10 ans pour faire le vin des autres, mais au bout d'un moment, tu as envie de voler tes propres ailes et te faire plaisir, quoi. Enfin, savoir pourquoi tu te lèves le matin, pour bien souvent c'est pour gérer des emmerdes, mais aussi tu as envie de créer quelque chose, d'amener ta patte, d'essayer des choses, de découvrir des choses. Et c'est vrai qu'on fait un métier quand même passionnant sur un terroir à Cahors. En plus, c'est vraiment une mosaïque de terroirs et on a un terrain de jeu qui est varié. Ouais, on peut aussi bien faire des Malbecs sur les plateaux, sur les terrasses, sur des graves, et tu vas avoir des personnalités de vins complètement différentes. Et après, tu peux jouer sur les élevages, sur plein de choses. Et ouais,
aujourd'hui, tu as un peu plus d'un hectare et demi quand même.
Ouais, non, aujourd'hui, le domaine fait 15 hectares.
Ah oui. Entre 2016 et 2022.
Ouais, on a rajouté quelques piles d'emmerde, mais aujourd'hui le domaine il est assez, vous avez pas la carte sous les yeux, mais le domaine est assez morcelé, il y en a un peu sur les plateaux, il y en a un peu partout, et pour moi c'est un terrain de jeu quoi, c'est un terrain de jeu où Catherine le dira aussi, et c'est vrai que on peut vraiment se faire plaisir et essayer de donner du plaisir au travers du Malbec. Quoi.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin, Catherine, qu'est-ce que tu dirais du vin de ton voisin?
Mais je trouve que c'est un vin qui est frais, qui est facile à boire. C'est les vins qui, c'est un des deux types des multiples types de vins qu'on peut faire sur l'appellation, vinifier sur l'appellation, des vins qui sont accessibles de suite, et on peut aussi faire des vins, des grands vins construits, parce que c'est une appellation extraordinaire. Pour moi, c'est la plus grande appellation du Sud-Ouest, potentiellement, la géologie, les oligo-éléments, etc., permettent de faire des très grands vins de garde, de grande tenue, des vins civilisés, ou bien des vins qui sont accessibles, même les vins élevés doivent être accessibles de suite par leur équilibre, par la qualité de l'élevage, par la qualité de la maturité des raisins, etc. On a un très gros travail de vigneron à faire. Et ça, c'est un vin qui est très gourmand. C'est un excellent vin de bar à vin. Quoi. Voilà ce qui se fait aujourd'hui sur Cahors. Des vins, c'est fini les vins bodybuildés. On fait des vins accessibles, friands, très, extrêmement goûteux. Quoi.
On a les marqueurs de Cahors quand même. On a le côté très, très violacé, très, très intense de la couleur.
Oui, la couleur est...
Qui est assez typique, qui peut être effrayant aussi, parce que c'est un bloc. Mais effectivement, j'ai une très légère au nez, une très légère, je ne sais pas si on appelle ça de la volatile, mais qui ne sont pas du tout en bouche. Et il y a un côté effectivement hyper gourmand.
Fruits très mûrs.
Voilà, avec fruits noirs.
Sans que ce soit lourd, en fait.
Fruits noirs mûrs, mais avec ce côté...
Moi, j'ai pas la volatile.
Il n'y a pas de fruits rouges, mais il y a effectivement beaucoup de fraîcheur.
Benoît, tu disais en termes d'élevage, cuve béton, c'est un choix. Toutes tes cuvées sont que en béton. Tu joues aussi avec le bois.
Le terroir, c'est un terrain de jeu, mais le chai, pour moi, c'est un très bon terrain de jeu. C'est vrai que au chai, on a de l'inox, on a du bois, on a du ciment, on a du foudre, on a du muis, du demi-muis, de l'acacia, des damjanes. Et on essaye. Enfin, le problème, c'est qu'on fait qu'un millésime par an. C'est un peu frustrant, mais donc là, cette cuvée, c'était la première fois qu'on l'a séparée, qu'on l'isolait, qu'on faisait un gros travail à la vigne aussi, parce que il y a pas de secret pour faire des jolis vins. Il faut avoir des beaux raisins. Et voilà, on l'a isolé, on l'a vinifié le plus simplement possible. Et alors, pour être honnête, au début, on n'était pas parti pour forcément faire une cuvée nature, mais la nature fait bien les choses, tellement bien que ça, tout s'est fait tout seul, tout s'est bien enchaîné, et au moment de le mettre en bouteille, ça goûtait bien, et du coup, on y est allé comme ça, pas filtré, pas sulfité. Et c'est pour ça, là, on est vraiment sur du jus de Malbec 100%, quoi. C'est sans artifice.
T'as un bel outil de travail. T'as un chai neuf, tout joliment construit.
Un chai de Barbie, ouais.
J'ai eu la chance de passer au domaine en 2020, justement.
Ouais.
Et j'étais, séduit par l'installation. Ça permet vraiment de travailler dans les conditions, à mon sens, des conditions qui sont quand même très très confortables et qui permettent de travailler probablement plus facilement sans intrants aussi.
Oui, ça joue. Enfin, on essaie de travailler de manière gravitaire. Le plus
gravitaire.
Sans pomper en fait l'avantage. On met les raisins dans les cuves.
Sans piger ni remonter.
En fait, c'est juste l'action de mettre les raisins dans la cuve. C'est pas pompé. Après, sur des cuvées comme la Pompette, c'est des cuvaisons courtes. C'est plutôt un peu de remontage, un peu de pigeage, mais des millésimes comme 2020 où les raisins sont beaux, entre guillemets, il faut que ça infuse. Parce que si on va chercher sur des extractions, sur des durées de cuvaison plus longues, on risque de faire des vins plus opulent.
Est-ce que la garde, parce que là on vient de répéter plusieurs fois que c'est important d'avoir des vins qui se boivent tout de suite, est-ce que la garde reste quand même quelque chose qu'on peut avoir dans un coin de l'esprit, peut-être sur certaines cuvées, de se dire celle-là, elle sera peut-être pas parfaite maintenant, mais je veux qu'elle soit à l'apogée dans 10 ans. Mais Catherine fait non de la tête.
Les vins de garde, c'est la géologie qui permet de faire des grands vins de garde. Voilà, c'est la qualité des argiles, la matière organique, le calcaire, les oligo-éléments présents dans les argiles. Aux vignerons de permettre à la vigne l'accès à ces oligo-éléments qui vont déterminer la complexité aromatique au vieillissement à partir du moment où les vins sont élevés. Si on veut avoir des finales définies, si on veut avoir des arômes tertiaires, il y a nécessité d'élever les vins, comme dans toutes les grandes appellations, que ce soit le Pinot Noir, le Bordeaux quoi que ce, ou autre. Il faut, pour faire des vins de civilisation, j'appelle ça, moi, parce que ce sont des vins...
Tu as déjà utilisé ce terme. Qu'est-ce que tu entends par vin civilisé ou vin de civilisation ?
Est-ce que c'est la même chose que les vins fins ou pas ?
Oui, c'est des vins qui sont construits, qui sont réfléchis, qui sont amenés, qui sont portés. On est des interprètes d'une partition géologique, si vous voulez, mais simplement des interprètes. Et le piano désaccordé, c'est le sol, au départ. Donc, à nous d'avoir la compréhension du sol pour amener le raisin à maturité optimale. Et après... on peut commencer à jouer dans le chai en suggérant...
Le chai, c'est le synthétiseur, si j'en crois Benoît. Un peu.
Non.
Il met des effets.
Non, c'est le
piano. On pourrait être tenté.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il faut... on s'adapte, on propose, on n'impose pas au vin, on n'impose pas au raisin. On goûte et on agit ou pas en fonction du millésime, etc. Mais Cahors, c'est extraordinaire, la complexité aromatique en fonction des sols, sur les argiles ferromanganiques de l'Éocène. Au vieillissement, vous avez des arômes de violette, de pivoine, extrêmement floraux. Ça se développe sur des vins élevés à partir d'un an, deux ans, ça dépend du millésime. Et après, on a l'expression des calcaires. Moi, je suis juste à côté de chez Benoît, en ébouli de coteaux calcaires, un tout petit peu plus haut. On a des vins qui ont des expressions, comme on peut trouver sur Saint-Julien, de graphite, de Havane, de grands cigares au vieillissement. C'est très noble, c'est joli, c'est ça. C'est pas prétentieux des vins de civilisation, mais c'est des vins qui sont construits, quoi, vous voyez.
Oui, qui, voilà, qui des arômes tertiaires.
Ce que je veux
qui
dire, voilà.
Par contre, Cahors, oui, avait un peu de réputation d'avoir un moment dans le vieillissement où ils étaient un peu serrés entre la troisième et la deuxième et la troisième année. Ça reste vrai, ça reste pas vrai. C'était un excès d'extraction qui renforçait un petit peu la structure tannique et qui faisait qu'il était un peu fermé sur ce...
C'est le
un peu comme on dit à Chablis. Alors, je dis pas que c'est vrai, hein, j'essaie de déconstruire un peu, mm-hmm, que le Chablis, pareil, à un moment où il est un peu fermé entre 3 et 5 ans.
Non, je pense que ça vient à chacun de sa connaissance de ses sols, de ses vins, savoir vendanger au moment opportun. Après, effectivement, suite aux mises en bouteille, il peut se resserrer parfois, il peut être austère sur les finales qui ne sont pas encore définies. Mais souvent, au nez, rien qu'au nez, vous savez ce que vous aurez un peu plus tard. Le nez sera la bouche, je dis toujours, parce qu'on a déjà les arômes précurseurs de la complexité aromatique ou pas qu'on aura en finale. Les vins, ils sont serrés, soit parce que l'élevage n'est pas tout à fait approprié, soit parce que bon, il est dans une période effectivement difficile. Mais mes premiers vins étaient plutôt terriens. Maintenant, j'ai changé beaucoup de choses en pratique agronomique et ils sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus, même s'ils sont élevés, ils sont beaucoup plus verticaux, aériens, précis, droits, justes. C'est moins massif parce que la viticulture a évolué sur l'ensemble de l'appellation et on voit le résultat, c'est extraordinaire. Les vins sont plus du tout...
Entre autres, la bio, la biodie...
Biodie, tout ça, c'est, oui, c'est non, de l'agronomie pointue, je préfère dire. Voilà, parce que, effectivement, c'est, l'aspect scientifique est quand même fondamental, quoi.
Vous avez parfois des consommateurs, peut-être d'une autre génération, qui goûtent vos vins et qui disent « mais je ne retrouve pas mon Cahors, c'est pas lourd, je ne suis pas assommé au premier verre ».
Souvent, on ne dirait pas du Cahors. Or, c'est « on ne peut plus Cahors ». Voilà. Mais comme je vous dis, le Malbec, c'est un cépage qui est très susceptible, très compliqué à amener à maturité. Donc aujourd'hui, on fait un effort de l'amener au bout par une réflexion agronomique dans l'ensemble de l'appellation, quoi. Et c'est vrai qu'on ne reconnaît pas le Cahors, mais justement, le Cahors, c'est ça. C'est ça. Le vrai Cahors, aujourd'hui, c'est un vin qui peut être très élégant, très fin, très digeste, facile à boire jeune ou plus tard, quoi. Voilà, c'est, quand il est bien construit, c'est un vin qui est accessible à tout moment de sa vie, sur les arômes primaires ou secondaires ou tertiaires. Mais il doit être accessible tout le temps. Un grand vin qui a l'équilibre, il est bon tout le temps, pour moi, quoi.
Jusqu'à 10 ans, 15 ans.
Mais 40 ans, on a bu un 1918 de Claude de Gameau qui était extraordinaire. Un 1937 d'une jeunesse, c'est une grande appellation.
Pour le coup, un 1937 ou un 1918 n'était pas vinifié comme on vinifie aujourd'hui.
Non, je pense qu'il y avait la barrique perpétuelle pour 1918, alors que le 37, c'était un pur 37. C'était immense.
Qu'est-ce que tu appelles la barrique perpétuelle ?
C'est une barrique qu'on mouille régulièrement avec des millésimes successifs. Quoi.
D'accord, une espèce de Solera finalement.
Oui, c'était ça. Bon.
C'était une tradition à Cahors, ça ?
Alors, moi, je ne suis pas natif de Cahors, je ne peux pas m'exprimer sur le sujet. Mais
Ça l'a été dans beaucoup d'endroits. Voilà.
Oui, d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi tu as atterri entre guillemets à Cahors, puisque tu n'arrêtes pas de dire que tu n'es pas de la région.
Non, je suis native du Val d'Oise à l'origine. J'ai rencontré Mathieu Cosse, mon associé, sur les bancs de l'école de l'œnologie à Bordeaux. On a travaillé l'un et l'autre dans divers domaines viticoles. Moi, beaucoup à Léoville-Lascaz, Château-Nénin, Pomerol, j'ai fait mes classes. Et on était amateurs de vin, donc on a beaucoup, beaucoup bu. Et on s'est aperçu qu'il y avait un potentiel phénoménal sur l'appellation Cahors particulièrement. Quoi. Donc on a, d'abord, c'était accessible pour nous, parce que financièrement, on partait de zéro. Mais en même temps, on pouvait faire de très grands vins. Enfin, c'est un jeu, quoi, de se hisser au niveau des meilleurs vins de France. C'est pas une prétention, c'est une ambition noble, jolie. C'est quelque chose de proposer. Autre chose, quelque chose de très beau sur aussi cette appellation-là.
Le domaine donc Cosse Maisonneuf, c'est 99, c'est ça ?
C'est ça, premier millésime 99.
Donc, c'est pas d'hier non plus quand même. Donc il y a eu le temps de faire des millésimes et de faire des...
Oui, et de réfléchir et de pleurer hein, aussi, hein, parce que c'est difficile. Quoi. On n'avait pas la connaissance du climat, du terroir, du cépage. Après, il faut s'adapter à lui et non l'inverse. Et je dis toujours, il faut proposer, mais jamais imposer. Hein.
Parlant de difficultés, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du millésime 2021 ?
C'est pour moi le millésime le plus difficile que j'ai eu à faire depuis 20 ans. Voilà, c'est un millésime techniquement à la vigne très très compliqué. Très compliqué. Pour amener le raisin à maturité, pour l'amener au bout, c'était une guerre de tous les instants. Quoi.
Vous avez subi le gel ?
Le gel, ensuite bon, le black rot, mildiou, maladie classique, mais en plus on a un petit ami qui s'appelle le Suzuki, un petit moucheron là qui avait tendance à faire des dégâts si on ne surveillait pas le vignoble de près, quoi. Qui peut transformer en vinaigre très rapidement, sous 48 heures, les grappes. Quoi. Donc ça a été un combat là, cette année-là.
Benoît, toi, comment ça s'est passé ?
Il y a des sujets tabous à la maison.
2021 est une date qu'il ne faut pas évoquer.
Non, c'est c'est un millésime, Catherine l'a très bien résumé, pénible,
éprouvant, tous les vignerons nous le disent,
éprouvant physiquement mais moralement aussi. Enfin, moi après je suis vigneron, j'ai une entreprise, c'est une jeune entreprise, et quand tu sais que c'est ton gagne-pain, que t'as pas de raisin, c'est en ça que je dis que moralement c'est dur de savoir qu'on n'arrivera pas à faire de vin et de bon vin, quoi. Et c'est un challenge aussi. J'avoue que c'est pas que 2020 on était dans une zone de confort, mais c'était plus facile à s'adapter qu'un millésime 2021 où là pour le coup la notion de parcellaire à quelques mètres près, l'impact du gel pouvait être différent, c'était techniquement un millésime
apprenant.
Ouais, alors t'apprends hein, pour le coup hein. je peux te dire que tu découvres aussi face le gel, ça. C'est un impact qui n'est pas anodin sur hormis la quantité, mais sur la qualité, et c'est vrai que tu essayes d'apprendre, tu te dis ben le millésime prochain on va tout faire pour pas geler. Bon, enfin ça, des choses sont pas forcément vraies parce qu'on a encore repris un pet de gel la semaine dernière, mais
les bourgeons étaient sortis.
Ouais,
c'est plus au sud. Ouais.
Et après, on sait qu'on fait un métier paysan. Enfin, mais là, j'avoue que mes parents, enfin mon père était vigneron et il a gelé une fois dans sa carrière en 91. Oui. Une fois sur une. Moi, j'avoue, je m'installe 2017, 19, 21, 22.
Quand tu dis il a gelé une fois, c'est il a gelé une fois au moment où les raisins sont fragiles, parce qu'il peut geler tant que les bourgeons ne sont pas sortis.
Tant que les bourgeons ne sont pas sortis, au contraire, c'est pas plus mal. Ça, c'est pas plus mal. Mais, ouais, mais une gelée où ça t'impacte à griller tes bourgeons, ouais, il l'a vécu qu'une fois.
Le climat n'était pas tout à fait le même, peut-être.
On l'a constaté un peu, j'ai tout le monde interviewé, il y a une accélération du gel, enfin de dérèglement climatique. Là, il ne faut pas parler de réchauffement, même si c'est la conséquence indirecte. Mais dans tous les vignobles français, on a, enfin, les événements de gel au printemps sont de plus en plus fréquents.
Et là, ça vous a incité à retarder un petit peu justement la taille entre 2020 et 2021, où vous êtes resté un peu sur la même façon de travailler, avec justement cette... Alors, le contre-coup de se dire ça peut encore se produire. Quoi.
Mais nous, on a essayé de tailler dans un ordre différent, de tailler plus tard, d'attacher plus tard. Après, tu ne peux pas forcément aller contre le végétal, parce que quand ça commence à débourrer, à bourgeonner, au bout d'un moment, il faut faire le boulot. Mais...
Au niveau du domaine Cosse-Maisonneuve, il y a aussi du Gamay, il y a aussi du Cabernet Franc. Est-ce que c'est pour lutter contre ça? Est-ce que c'est pour faire des expériences? Est-ce que c'est pour les deux? Est-ce que c'est pour une autre raison?
Sortons un peu du Malbec.
On sort un peu de l'appellation.
Bien parce que j'aime bien autre chose aussi. Donc les Cabernet Franc et les Gamay sont sur les coteaux du Quercy.
D'accord.
Simplement en vin de France, parce que l'autorisation coteau du Quercy n'autorise pas le monocépage. On a d'immenses terroirs de Cabernet Franc sur les calcaires quiméridiens, les mêmes que Chinon, Chablis, Pomerol. Donc c'est et en plus on a un climat qui se prête à une maturité optimale tous les ans. Donc là il y a vraiment aucun mérite à les amener à maturité. C'est facile.
Mais c'est facile. Ça ma question, c'est-à-dire parce que c'est le Malbec, c'est difficile, il gèle, etc. Est-ce qu'il y a quelles sont les voies de
Moi il y aura pas de voie de secours. Le Malbec est un très grand cépage qui fait des très grands vins. Donc ça sera il y aura toujours le Malbec chez nous, mais le Cabernet permet de faire d'autres grands vins sur d'autres terroirs. Le Cabernet, c'est sur les calcaires, sur certains types de calcaires. Le Gamay, il est sur l'appellation coteau du Quercy. On fait des purs Gamay qui ne sont pas des Gamay de carbo, etc. Moi, je suis pas de Vincent Souffre. On s'inscrit pas dans le domaine Cosse-Maisonneuve ne s'inscrit pas dans une mode. On s'inscrit dans des vins qui soient lisibles, buvables à n'importe quelle période parce qu'ils sont équilibrés. Mais on est ouvert à d'autres cépages. On essaye des blancs. Alors c'est pareil, les blancs, il faut faire attention au degré, donc on réfléchit à certains cépages. Là, ça sera des...
Chenin.
Il n'y aura pas de monocépage.
Chenin,
Chardot, Sauvignon, pourquoi pas l'Uniblanc, enfin différents... Tout est dans la nuance. Il faut toujours essayer d'être très précis, de choisir ce cépage parce qu'il n'apporte pas trop de degrés d'alcool et puis de l'assembler avec un autre, etc. Il y a une multitude. Et puis, Cahors peut faire de très grands blancs puisqu'on a les mêmes calcaires que Chablis, si vous voulez. Il n'y a pas d'historique vraiment de blanc sur Cahors ou alors peut-être...
On revient à Armand. Il faut qu'il prenne le micro. Il faut qu'il prenne le micro, Armand, pardon. Les blancs.
D'abord, on en fait peu à Cahors, ça c'est une réalité. Cela dit, les vignerons s'y essayent de plus en plus et replantent de plus en plus, même si c'est en petite proportion.
Donc ça va être des vins de France.
Alors aujourd'hui, c'est soit des vins de France, soit des IGP Côte du Lot, puisqu'on peut également les produire en vins de pays, en IGP. Les quatre cépages en blanc qui sont les plus plantés aujourd'hui dans le vignoble sont le Chardonnay, le Sauvignon Blanc... le Chenin et le Viognier, même s'il y a des expériences sur d'autres cépages qui peuvent être très intéressantes. Je pense notamment au château Combelle-Lasserre qui a planté un Durol, du Fermentino, avec de très très bons résultats. Par rapport à un historique de blanc, je pense que le Chenin a une certaine antériorité sur le vignoble.
Est-ce que ce serait, alors là, avec la casquette de l'interprofession, un désir, une ambition, un objectif, je sais pas, parce qu'on sait que ces choses-là prennent beaucoup de temps, d'imaginer une appellation Cahors, du blanc en Cahors, ou c'est quelque chose qu'il faut faire à côté? On a posé cette question.
L'ambition de faire des grands blancs, je pense. On a des terroirs qui sont exceptionnels pour ça. Et d'ailleurs, il y a une vraie marque sur les blancs à Cahors qu'on retrouve aussi dans les rouges. Tout à l'heure on a fait une masterclass sur tous les vieux millésimes de rouge qu'on a présenté. Le point commun, c'était l'acidité, c'était la fraîcheur, et ça c'est exactement ce qu'on va retrouver aussi dans nos blancs. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait des très jolis chardonnays à Cahors et qu'on surprend, parce qu'on n'attend pas cette acidité dans le sud, de la même manière qu'un Viognier à Cahors, on va presque retrouver une acidité qui va totalement surprendre par rapport à Condrieu, qui est très, très, très connu pour sa production de Viognier. On a parfois une fraîcheur à Cahors qu'on n'a pas à Condrieu.
Alors du coup, est-ce que ce système d'appellation, qui a évidemment ses atouts pour la visibilité, tout ça, c'est pas aussi un carcan un peu contraignant qui fait que bah, tu veux faire du blanc, bah, tu pourras pas l'appeler Cahors ou alors il faut entamer, prendre un bâton de pèlerin, ramer, comme le montre Catherine.
Les appellations, c'est très intéressant dans la mesure où
on
indique une origine, on la protège, on essaye de faire référence à une typicité, mais pour autant, effectivement, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un carcan, parce que les vins ont besoin d'évoluer. Les vins de terroir, en fait, sont pas faits pour naître dans des carcans, mais plutôt pour être le reflet de leurs origines et de leur histoire. Et du coup, en fait, on parle des blancs, mais on pourrait parler de Cahors de la même manière. En fait, on retrouve exactement la même chose. En fait, Cahors incarne aujourd'hui cette vision en offrant des vins qui sont libres, surprenants, en fait, qui reflètent une certaine versatilité du terroir et du cépage. Et cette versatilité, en fait, c'est presque une réponse à un monde qui est en constante évolution, qui fait qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils sont toujours en quête de diversité, de découverte, mais de la même manière que les producteurs sont en recherche de singularité, de liberté, en fait, de pouvoir s'exprimer comme ils ont envie. Et finalement, je m'interroge si la promesse de Cahors, ce sera pas de plus en plus de surprendre à chaque dégustation, en fait, les amateurs de grands vins de terroir. Avec
vous l'avez bien fait aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tout en étant un événement Cahors, vous faites goûter des blancs.
Oui. On avait envie de les amener pour montrer aussi
qu'il y a des très beaux terroirs, des beaux terroirs à blanc sur cette région, ouais, tout à fait.
Oui, c'est là où on peut identifier le terroir, quand on est monocépage et qu'on a toutes ces diversités. C'est le principe des climats de Bourgogne, en fait. C'est pour entre guillemets, la lisibilité du grand public, c'est ce qui est le plus évident. Un cépage, mais 10 000 interprétations possibles, quoi.
Tu veux dire qu'à Châteauneuf-du-Pape, on brouille les pistes un peu, non ?
Un petit peu, ouais.
Et c'est exactement.
Non, mais c'est comme en Bourgogne, quoi.
C'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui. Je pense que la diversité des expressions de Cahors, on pourra retrouver dans les blancs, c'est ça, en fait. C'est l'expression de cette mosaïque de terroir qui fait qu'on n'a pas la même chose à un endroit et à un autre. C'est aussi le travail des vignerons qui vont choisir de le travailler à façon de telle ou telle manière. Et aujourd'hui, la palette, chez nous, est très très large pour toutes ces raisons. Et moi, je m'en réjouis.
On a servi la cuvée
de Les Laquais,
Catherine, du domaine Cosmaison-Neuve, donc Les Laquais. Qui sont Les Laquais ?
Les Laquais, c'est une parcelle qui est située en milieu de colline. Donc ça, c'est un vin qui a été élevé un peu plus de 2 ans, qui a été mis en bouteille fin janvier, très récemment donc.
C'est en 2019.
2019,
je précise que Les Laquais, ce n'est pas AIS, les serviteurs, hein, c'est
non,
ET.
ET, parce qu'il y a des lieux dits laquettes. Je pense que ça signifie qu'on a de l'argile dans les sols, des rétentions d'eau. Je pense que laquette, c'est petite mare en patois. Voilà, donc,
du Val d'Oise, mais tu parles le patois quand même.
Disons que je me renseigne un tantinet sur le potentiel géologique en fonction du nom des lieux dits. Et ça, c'est très intéressant.
Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est, le lieu dit vous apprend beaucoup sur le potentiel. Le camp des Piaux, par exemple, on est parcelles. Le camp des Piaux, ça veut dire le champ des vignes. Et juste en dessous, c'est le champ des pommiers, ce qui sous-entend un sol plus profond. Donc, on ne fera pas le même type de vin et on sait déjà un peu vers quoi on va s'orienter. Donc voilà. Et Les Laquais, c'est notre grande cuvée sur les argilo-calcaires. Après, on a une autre cuvée qui a des expressions complètement différentes aromatiquement sur les argiles ferromanganiques. On n'a pas la dimension calcaire, on n'a pas la même tension, on a un côté beaucoup plus velouté sur Marguerite. Et Les Laquais, on a une certaine vivacité, fraîcheur. On a toujours la. Et là, l'élevage ne paraît pas en bouche. Vous n'avez aucune notion d'élevage. L'élevage, c'est l'écrin du vin. C'est l'écrin qui va porter le vin pendant un certain temps. et qui va lui donner sa dimension, sa complexité, ça va le stabiliser dans le temps, etc. Quoi. Ça va lui donner tout son potentiel aromatique de vieillissement.
Mais sans le marquer, si possible.
Sans le marquer, jamais le bois ne doit dominer le vin. Jamais, jamais.
Et pourtant ?
C'est difficile.
Tout à l'heure, quand on a goûté, parce que j'étais à la masterclass un peu plus tôt, et on a goûté donc un 2002.
Oui.
Tu disais que le bois était là pour oxyder les tanins.
Pour raffiner les tanins, oui. Pour les oxyder très lentement.
Et pas pour effectivement apporter un goût.
Un quelconque goût. Il faut que les chênes soient très bien séchés, que les douelles, que les chauves correspondent au vin. Enfin, là, je suis un peu maniaque là-dessus. Voilà.
Combien d'élevages, du coup, sur ce...
Deux ans sur les laquais.
Deux ans
d'élevage, oui.
En barrique.
Mmh. Élevage, hein, c'est aussi grandir le vin, quoi. C'est l'élever vers... il est pendant deux ans dans le noir, mais ça va l'élever vers la lumière, quoi. Ça va le rendre lumineux, ça va le rendre limpide, clair, précis, juste. Ça va vraiment être la meilleure façon pour lui d'interpréter son sol, quoi.
Benoît, on fait l'exercice inverse. Qu'est-ce que tu nous dirais du vin de Catherine ?
Non, mais Catherine, enfin, reste modeste, mais c'est une grande vigneronne de l'appellation qui a fait...
Qui fait connaître l'appellation.
On peut dire que le domaine Cosmaisonneuve, c'est quand même effectivement un des noms qui...
Un des phares
de l'appellation. Il y a toujours il y a quelqu'un qui parlait de premier de cordée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a quelque
c'est
chose de cet ordre-là.
C'est simplement que j'aime le vin, c'est tout. J'aime les beaux vins.
Ils aiment tous le vin.
Oui, mais... Et voilà, je voudrais transmettre...
C'est pas pour cirer les pompes, non, mais c'est utile dans une appellation
Benoît,
d'avoir toujours... D'autres régions, il y a des pilotes, il y a des noms qui sont des marqueurs.
On transmet tous, beaucoup de vignerons de l'appellation transmettent la même passion.
Mmh. C'est ce qui permet de casser les codes aussi. Enfin, la perception qu'on a du Cahors traditionnel.
Mais enfin, c'est vrai que moi, le domaine, il est récent et... Mais c'est vrai que quand on goûte les vins de Catherine et de Mathieu, j'aime le vin aussi.
C'est une rencontre des alcooliques anonymes. Hein,
mais c'est vrai que c'est des vins qui font vibrer. Enfin, quand on connaît notre appellation, quand on connaît le cépage et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, c'est vrai que derrière, tu as envie de te dire ouais, c'est vrai que faut y aller pour. On peut le faire.
C'est des repères, sans que ce soit nécessairement des modèles, ça peut être des repères de se dire voilà les directions
que je peux prendre. C'est des repères et franchement, c'est moteur de voir des gens comme ça qui arrivent à faire des belles choses comme ça. Et tu te dis, faut y arriver. Enfin, eux, ils sont sur la bonne voie et pourquoi pas nous, quoi, derrière.
Toi aussi. Hein, alors, la pompette est très différente, pour le coup. On va dire en quoi c'est différent, peut-être. Qu'est-ce qui est différent entre les laquais et le vin nature de Benoît qu'on vient de goûter juste avant ? Si on devait le résumer, on parle de deux expressions d'un même cépage.
Je pense qu'on n'a pas du tout la même intention. Effectivement, on parlait d'élevage, c'est pas du tout la même histoire d'élevage. Benoît était très clair sur le fait qu'il voulait.
Et c'est deux plaisirs différents. Parlons du résultat du coup, justement.
Oui, c'est deux plaisirs totalement différents. Mais pour moi, ils se valent. Il n'y a pas de jugement d'échelle. Enfin,
c'est une question de style, c'est vraiment une question d'hierarchie.
D'ailleurs, Benoît fait aussi donc des vins d'élevage. Et je suppose que son idée, c'est d'élever aussi ses vins vers la lumière, comme peut le faire Catherine. Et il fait aussi des cuvées très chouettes en sous-bois. Après c'est des parties prises. Moi, je considère, enfin, de mon point de vue de caviste bar à vin, ça me semble intéressant. Et puis, je pense que c'est la base du travail du vigneron, c'est de décliner une gamme avec différentes intentions. Et là, on a deux expressions d'intentions totalement différentes. Voilà.
Oui, il est plus structuré, il est plus boisé, il est plus de garde, il est plus. Accompagné avec quelque chose qui est plus costaud. Hein. On arrête avec le gibier, hein, définitivement, mais il faut des plats...
Moi, j'ai laissé mon fusil en Berlin.
Le paleron rassis va...
Exactement. Parlons d'accord. Quels sont les accords du Malbec ? Je pense effectivement que sur le premier, la planche de fromage charcuterie, ce sera une merveille.
Laurent saura très bien l'accorder.
Moi, je fais avec des choses très simples.
Dans son jardin, celui-là, du coup, peut-être plus un vin de gastronomie. Tu parles de paleron.
Oui, le paleron rassis, une viande un peu persillée, quoi. Avec les vins à structure tannique, de toute façon, le tanin du vin révèle les arômes de la viande et puis et inversement, quoi. C'est des accords qui sont.
On parlait de gras onctueux, effectivement, pendant cette masterclass très très édifiante. Mmh.
Un petit bœuf de Kobe, là, qu'on mange tous les jours.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Mais moi, je suis comme Benoît. Je veux dire, je fais des vins aussi qui sont pas élevés forcément de cette façon-là. On fait des vins sur les jeunes vignes, notamment, on élève différemment.
Sur des plus vieilles vignes, les Laquais ?
Les Laquais sont les plus vieilles vignes. Mais Marguerite, c'est une vigne très jeune qui fait mon plus grand vin, paradoxalement, parce qu'il y a un gros travail agronomique dessus. Donc,
quel âge, alors, du coup, quand tu dis la vieille
Marguerite,
vigne ?
Elle a 20 ans.
Et les Laquais ?
Et ils ont plus de 50 ans.
D'accord.
Voilà. Donc, de dire toujours qu'une jeune vigne ne fait pas forcément des grands vins, ça dépend d'énormément de paramètres. C'est rigolo. Dans les deux cas, Benoît et moi, c'est Jean-Paul Sartre, les mains sales. Hein. Et des fois, la nausée aussi. Hein, parce qu'on rame pas mal. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est un métier extraordinaire. Quoi. Très dur, très très dur, mais je ne saurais pas faire autre chose. Quoi. Même s'il y a des coups durs, c'est pas grave. Quoi.
Merci de faire ce métier, en tout cas, pour nous proposer ces belles cuvées. Je vais peut-être me tourner vers toi, Armand. On fête donc les 50 ans de Cahors. C'est un événement. Et puis, c'est pas rien, 50 ans. Et puis, c'est une marque, une appellation qui est facile, enfin, qui est bien placée sur la carte.
Identifiable.
Qui est identifiable, qui est connue. Je pense qu'il y a ce travail de rééducation à casser un petit peu les vieux. Stéréotypes un peu excessifs. Donc ce chemin-là, il est largement en route avec les vins qu'on vient de boire. Voilà, il n'est pas question de parler de choses qui soient lourdes ou trop dures ou pas buvables. Quelles sont les prochaines étapes? Quelles sont les 10 prochaines années à Cahors? À quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a des nouveaux vignerons qui arrivent? Parce que Cahors, c'est pas forcément une terre facile pour les nouveaux vignerons, parce que je pense que déjà l'hectare, il doit commencer à coûter un peu d'argent. C'est pas forcément l'endroit où on s'installe quand on n'a pas un sou. Est-ce qu'il y a encore des nouvelles...
Il y a encore une belle marge de progression au niveau du prix des hectares. On reste un des endroits en France aujourd'hui avec un prix de l'hectare très attractif.
D'accord.
Je pense que alors, les jeunes vignerons... En général, je pose cette question. À combien valorise-t-on un hectare?
Mais la réponse, ça dépend.
Non, il y a des endroits où ils sont... où c'est plus cher que d'autres. En
fait. Ah, bizarrement.
Serait-ce l'offre de...
Est-ce que les terrasses sont plus chères que les plateaux, par exemple? Est-ce que les cosses sont plus chères que les terrains à luvière?
Non, je dirais pas ça. En fait, ça rejoint un peu la question qu'on nous pose.
J'essaie de faire accoucher la réponse.
Qu'on nous pose très souvent, qui est de savoir.
L'obsession de savoir le prix
où sont les meilleurs terroirs
de Cahors, où est-ce qu'on fait les plus grands vins. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, si on devait prendre un G20 de l'appellation, il est totalement éclaté sur le vignoble et on fait des très grands vins sur les plateaux, on fait des très grands vins dans la vallée. Il n'y a pas de zones qui prendraient le dessus sur d'autres. Et au contraire, on continue à découvrir finalement des terroirs avec des potentiels extraordinaires qu'on n'imaginait pas encore. Il faut imaginer que avant le phylloxéra, on avait un vignoble de Cahors, alors qui n'était pas délimité avec une aire géographique comme aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus important. On estime qu'il y avait à l'apogée du vignoble de Cahors, entre 60 et 80 000 hectares de vignes.
Aujourd'hui,
on est à 4300 hectares de vignes. En 1946, quand on a replanté, on en a parlé tout à l'heure, où le vignoble avait presque disparu, il restait moins de 200 hectares de vignes à Cahors. Donc, une grosse partie des coteaux qui étaient plantés avant le phylloxéra sont repartis en végétation, en bois, etc. Donc, il y a encore énormément de terroirs à reconquérir, en fait, à Cahors. Et c'est assez excitant parce que finalement, c'est un peu la chasse au trésor du terroir, d'aller trouver la parcelle où personne n'imagine faire des...
C'est ce qui se passe concrètement. Il y a des gens qui plantent encore des vignes aujourd'hui.
Il faut défricher, faire péter la dynamite. Et...
J'allais vous parler de la parcelle de Topinambour, de Croparentou, d'Henri Jaillet. C'est exactement ça.
Ouais. Alors précisez, Henri Jaillet.
Henri Jaillet, Grand Vigneron, mythique.
Qui a allé chercher le Croparentou, qui a créé une parcelle ex nihilo, parce qu'il avait l'intuition. Alors j'imagine qu'il n'était pas seul.
Ses voisins rigolaient beaucoup quand il a décidé de planter cette parcelle, puisqu'elle aurait été impropre à faire des bons vins. Et aujourd'hui, c'est probablement une des plus grandes parcelles de la Bourgogne, en tous les cas un mythe.
Est-ce que la suite logique, du coup, parce qu'on n'identifie pas encore des climats Cahors. Est-ce
que vous êtes cédé par la Bourgogne, c'est terrible.
Non, mais c'est une suite logique.
Il est fatigant.
Les gens travaillent sur du parcellaire. Mais c'est pas ça. Mais on travaille sur du parcellaire. Il y a des climats spécifiques. C'est la suite logique qui rentre dans le cadre de la OC, donc il bouge pas finalement. Alors sauf à faire des premiers crus, ce qui sera un autre sujet, mais c'est de mettre en avant justement des parcellaires plus que on ne fait. Parce que là, on en parle les laquais, mais on ne dit pas. Issus de cette parcelle.
Il y a forcément des parcelles qui sont particulièrement intéressantes et qu'on a envie finalement d'isoler, de travailler séparément, mais on fait aussi des très grands vins en assemblant des parcelles.
Oui, non,
mais... Donc il y a plein de modèles différents. Donc, effectivement, on en a conscience et les vignerons aujourd'hui s'essayent sur justement à exacerber la quintessence de l'endroit où ils vont faire les choses. Après, l'avenir de Cahors sur des classifications avec des parcelles, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Je ne sais pas si ça verra le jour, si ça verra pas le jour. En tous les cas, il y a aujourd'hui une montée certaine en qualité et en reconnaissance pour les terroirs de Cahors.
Un mot, peut-être pour finir. L'international, dont on a un tout petit peu parlé, c'est une part importante de la consommation. Le goût mondial pour le Malbec rejaillit quand même sur les ventes de Cahors.
Bien sûr. Alors aujourd'hui, pour se donner un ordre d'idée, le vignoble exporte à peu près un tiers de ses vins. Et nos plus gros marchés sont le marché américain, le Royaume-Uni et le Québec, qui est un marché historique pour Cahors. Ce qui ne nous empêche pas de développer finalement d'autres marchés dans d'autres pays européens ou des endroits plus lointains comme l'Asie par exemple.
Merci à tous les trois, merci Armand, merci Benoît, je vais donner les noms, merci Armand de Gérard de l'Interprofession, merci Benoît Aymar du Clos d'Auduit et merci Catherine Maisonneuve du domaine Cos Maisonneuve.
Merci à vous de nous avoir laissé un peu la parole pour expliquer la passion pour notre appellation. Quoi. C'est, et l'ambition, et puis c'est la future Toscane, hein, Cahors maintenant. Voilà l'ambition.
Ah, on finit là-dessus, donc la future Toscane.
Oui, les bâtisses sont magnifiques, c'est un département qui est très, très beau.
On
ne peut
pas parler des paysages, mais c'est vrai que c'est
les paysages sont très beaux, la gastronomie se tient. Quoi, voilà, donc,
Le no-tourisme
est en développement.
Aussi. Merci infiniment à tous les trois. Merci pour ces vins. Bravo pour ces vins. On a goûté la pompette au naturel de Benoît Aymar au Clos d'Auduit. On a goûté les laquais du domaine Cos Maisonneuve. C'était un 2019. Deux vins très différents, deux expressions différentes du Malbec, avec deux intentions différentes, comme tu le disais, Laurent. Et à l'arrivée, deux vins superbes et très, très agréables. Je profite quand même de remercier Claire Delune, l'agence qui organise l'événement, qui vous aide à organiser l'événement à 50 ans de Cahors, qui nous a donc permis, proposé et reçu ici. On a installé notre petite table dans un coin. Même si on a entendu passer les sirènes, c'est pas grave, on a l'habitude. On va vous libérer parce que dans 4 minutes environ commence le dîner vigneron. Donc là, je sens que. Commence à avoir faim, vous avez déjà raté l'apéro. C'est terrible. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut Laurent,
merci.
Salut Patrice.
Merci, au revoir.
Salut à tous.
À très vite, ciao.